suis Raphaël Seyrier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël.
Merci Guillaume Pédron de venir sur le podcast Sésame Asie. Donc on est à Taïwan, tu es à Taïwan depuis 11 ans.
C'est ça, oui.
Tu es boulanger, ton entreprise s'appelle Macroissant by Guillaume. Mmh. Je suis un fidèle client, je dois avouer. Tu as une boutique juste en bas de chez moi, tu as 3 boutiques sur Taipei.
Oui, exactement, oui.
Je dois aussi, petit disclaimer, tu es venu les mains chargées avec un sac de pâtisserie. Donc,
bah ça, c'est normal, ça.
C'est un peu de la corruption. Là, je vais essayer de garder mon intégrité, mais voilà, je voulais le dire. Mais voilà, pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
Ok, donc je m'appelle Guillaume Pédron, je suis français, j'ai 35 ans, je suis marié à une Taïwanaise, j'ai des jumelles de 5 ans. Et je suis donc le chef propriétaire de Microissant by Guillaume à Taipei.
Ok, ok. Non, tu me dis que tu serais bref. Voilà. Super concis, super. Raconte-nous déjà, moi je suis toujours curieux de l'arrivée. Il y a 11 ans, comment est-ce que tu es arrivé à Taïwan?
Alors, je n'ai pas choisi de venir à Taïwan. J'étais chef boulanger à Paris pour un boulanger de renom. Qui a ouvert une franchise en 2011 à Taipei, donc via un investisseur taïwanais. Et donc, il m'a proposé la place de chef pour garantir son savoir-faire et le suivi des boulangeries à Taipei.
D'accord. Donc, toi, tu étais déjà boulanger de formation. Ouais. Tu viens d'où en France? Comment tu as appris le métier?
Alors, je viens du Croisic.
Ouais.
Alors, le Croisic,
c'est-à-dire
le Croisic, c'est une petite ville en Loire-Atlantique. 4000 habitants, donc voilà, tout
d'accord,
petit.
Tu me rassures, je ne connaissais pas, mais 4000, ça va.
Tout petit, donc voilà, je fais mon apprentissage là-bas, et puis à l'âge de 20 ans, des envies d'ailleurs, des envies de belles maisons sur Paris. Voilà, candidature libre sur Paris, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe de Frédéric Allos, meilleur envoyé de France boulanger. Donc il y avait 8 boulangeries sur Paris à l'époque. À l'heure actuelle, il a tout vendu juste avant le Covid.
D'accord. Bon timing s'il a géré ça exprès.
Ouais.
Donc tu es un peu monté à Paris, mais sans encore d'idée d'international à la base.
Alors, c'est assez particulier parce que je suis parti en me disant je fais un an à Paris et puis derrière, je reviens au Croisic. Et La vie a fait que, voilà, ça fait maintenant 15 ans que j'ai quitté le Croisic. Et donc, j'ai fait 3 ans à Paris et ça fait 11 ans que je suis à Taïwan.
D'accord, oui. Mmh. Et donc, en fait, tu as cette double casquette d'avoir d'abord été salarié, puis entrepreneur. Donc, ça va être intéressant de peut-être revoir un peu le parcours. Donc, déjà, comment ça s'est passé le côté, toi, tu débarques de France, tu n'as pas d'expérience internationale.
Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé à Paris... grosse structure, 8 boulangeries, donc il a fallu faire son trou déjà à Paris. Donc j'ai un parcours assez atypique parce que ça a été assez vite. Donc je suis arrivé à 20 ans à Paris, 21 ans je suis passé chef sur une des 8. Et à 22 ans j'ai pris la plus grosse des boulangeries à Paris et à 23 ans il m'a lancé à l'étranger.
D'accord, parcours express.
Donc, parcours express, beaucoup de travail et... je ne pense pas que j'étais le meilleur boulanger qu'il avait à Paris. Par contre, je pense que j'étais le plus déterminé. Et en m'envoyant ici, je pense qu'il savait que j'aurais donné 1000% de ma personne pour défendre la marque.
D'accord, ok, intéressant. Enfin, question un peu de néophyte, mais enfin, déjà boulanger, on parle de ces boulangers-pâtissiers. On fait les deux ou
Alors, on n'est pas obligé de faire les deux. C'est mieux de faire les deux. Moi, je fais les deux. Alors après... en France, on fait les deux. À Taïwan, des vraies boulangeries, pâtisseries comme en France, il y en a très, très, très peu.
Mm-hmm.
Soit ils se concentrent sur le pain, soit sur la pâtisserie.
D'accord. Les pâtisseries, c'est viennoiserie et gâteau, quoi.
Pâtisserie, c'est essentiellement gâteau.
Ah, donc viennoiserie, c'est plutôt compris dans le pain, alors?
Exactement.
Ok, d'accord.
Et donc, à la base, donc on est apprenti, j'imagine. Oui. On intègre une équipe qui est sous un chef. Donc, le chef chapeaute la cuisine d'une boulangerie. Oui. Même en France, on parlait aussi de cuisine centrale.
Ouais. Cuisine.
D'accord. Oui. Alors qu'ici, si j'ai bien compris, tu as un modèle de cuisine centrale.
Alors ici, l'idée, quand j'ai lancé Croissante, c'était de se développer. Donc au démarrage, j'ai monté une cuisine qui était déjà d'une taille conséquente. Mm-hmm. Donc on s'est servi de cet espace-là pour faire une cuisine centrale qui approvisionne nos 3 magasins.
D'accord, oui. Mm. C'est un modèle qu'on a vu dans un épisode précédent avec la rôtisserie à Hong Kong. Ça n'a rien à voir, hein. C'est de la vente de poulet, ouais. Mais voilà, même système de cuisine centrale et d'idée de faire une sorte de chaîne.
Ce qui a plusieurs avantages, c'est qu'avec cuisine centrale, tu as un point de production. Mm-hmm. Donc ce point de production, il est plus facile à gérer si tu en as un que 3, 4 ou 5.
Ouais, j'imagine bien.
C'est-à-dire que si tu en as 3 ou 4, il te faut 3 ou 4 chefs et on en parlera plus tard, mais tout ce qui est RH, c'est devenu... On va pas appeler ça un problème, mais un point pour les entrepreneurs à réellement intégrer.
Surtout à Taïwan, où j'imagine qu'en France, tu as un pool d'employés potentiels infinis, alors qu'ici, des gens un peu...
Alors, je pense que ça fait longtemps que tu es parti. Plus du tout.
Ouais.
Plus du tout.
Ouais, en tout cas, sur la boulangerie, intuitivement, on dirait qu'il y a plus de boulangers formés en France qu'à Taïwan. Ouais, là, à Taïwan, tu es quand même sur des skills, non? Prouve-moi le contraire, vas-y.
Le Covid a complètement... reformuler tout ce qui est hôtellerie, restauration, artisanat. Globalement, plus personne ne veut faire ces métiers-là.
Mmh, d'accord.
Week-end, tôt le matin, Noël, Nouvel An, c'est des métiers qui sont beaux mais qui sont compliqués.
Mmh. Ouais, ça c'est sur la restauration, mais ouais. Je savais pas si ça touchait aussi la boulangerie, quoi. Ok.
Bah la restauration, oui. La boulangerie, c'est très tôt le matin. Et,
bien sûr.
Bon, c'est un vrai choix de vie. Hein. Mmh. Moi, je me lève à 2 heures tous les matins. C'est particulier, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est clair.
Mmh. Bon, la discussion est un peu décousue, mais allons-y avant d'oublier. Donc ce côté RH et comment trouver les bonnes personnes. Ici, tu dois les former ou tu as déjà des Taïwanais qui sont bien formés au métier?
Alors, il y a 10 ans, quand je suis arrivé, il y avait très peu de Taïwanais qui étaient formés à la boulangerie française. Alors j'insiste bien, boulangerie française, mmh. Parce qu'il y a différents styles, Taïwanais, Japonais, Français, très peu. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu un vrai élan pour la boulangerie française. Tu prends la dernière Coupe du Monde de boulangerie, qui est une compétition donc internationale. C'est Taïwan qui a gagné.
D'accord.
Donc c'est quand même assez significatif. Mm-hmm. Donc maintenant, on trouve des boulangers qui sont partiellement formés. Le vrai dilemme, c'est de les garder.
Mm. D'accord. Et vas-y, dis-nous, parce que comment faire, hein, ça c'est pas la première fois qu'on aborde le sujet, si t'as des secrets.
J'ai pas la solution miracle. Moi, ce que je mets dans mon entreprise, c'est des projets personnalisés par employé. Mm-hmm. Donc en fonction de leur niveau, leur tempérament, leurs attentes, on va essayer au mieux les accompagner dans un projet qui les intéresse. Donc en faisant ça, on va peut-être pas les garder 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va les garder 2, 3, 4 ans, 5 ans.
Et un projet personnalisé, donne-nous un exemple.
Alors, je vous donne un exemple. On est assez structuré à Croissant. Donc, j'ai un responsable de production. Donc, mm-hmm. C'est un jeune Taïwanais de 23 ans. Donc, ça fait 3 ans qu'il est avec moi. Là, dans quelques mois, il va partir en France 3 mois. Faire un pseudo stage formation avec des boulangers français.
Mm-hmm. Et ça, c'était un peu son projet, quoi. Il avait cette envie et tu l'accompagnes pour réaliser ça, quoi.
Alors, son projet final, c'est de s'installer, donc mm-hmm. d'ouvrir sa boulangerie. Mais avant ça, il voulait avoir une expérience à l'étranger. Mmh. Donc, au lieu de partir la fleur au fusil et un peu n'importe où, je lui ai dit, écoute, moi, en France, c'est le pays de la boulangerie. Je peux te recommander à certaines boulangeries. Donc, c'est mieux que tu ailles dans un endroit que je connaisse, que tu partes aux États-Unis ou en Australie. Et puis, tu ne sais pas trop où tu vas tomber et tu vas perdre ton temps. Mmh. Donc, il va partir après Chinese New Year. Et quand il revient, le deal qu'on a, c'est qu'il reste 2 ans avec moi.
D'accord. Et ça dans la boulangerie, de vouloir créer son propre business, c'est assez classique ou là, c'est un cas particulier ou
Non, c'est assez classique.
D'accord, ok. Parce qu'on sait qu'en Asie, c'est surtout les employés qui sont bons pour venir te concurrencer. Ça arrive souvent, mais dans le métier, c'est assez classique. Quoi.
C'est assez classique, mais j'ai beaucoup d'anciens de chez moi qui veulent ouvrir des boulangeries, leur propre boulangerie. Mm-hmm. On a beau les prévenir. Ils partent un peu la fleur au fusil sans vraiment préparer le projet. Et bien souvent, voilà, ça, sur du long terme, ça, ça marche moyennement.
Mmh. T'as des... Pour quels aspects
J'ai un exemple, j'ai un ancien de mes sous-chefs qui s'est installé, et il s'est installé très vite via une opportunité, et à l'heure actuelle, il est coincé dans sa petite boulangerie, c'est-à-dire qu'il travaille tout seul, de 6h à 21h le soir, 6 jours sur 7, et le 7e jour, il va faire de la paperasse, et quand je vais le voir, il me dit qu'il regrette. Il regrette parce que le projet n'a pas été assez préparé, et que voilà, un projet... entrepreneurial, d'installation, même pour des boulangeries, c'est quelque chose qui se prépare. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui se prépare. Moi, quand j'ai préparé mes croissants, ça m'a pris entre le moment où j'ai eu l'idée de faire un concept autour du croissant et le jour où on a ouvert, ça m'a pris entre 3 et 4 ans.
D'accord. Donc toi, tu connaissais déjà le marché, vu que tu avais travaillé ici avant.
Je connaissais très bien le marché et c'est pour ça qu'on a fait My Croissant et pas My Baguette.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que la consommation de pain... J'ai bien de pain est différente à Taïwan qu'en France. Mmh. En France, bon voilà, on mange du pain, il est au milieu de la table et puis ça accompagne tout le long du repas. Le pain à Taïwan, c'est plus considéré comme un repas en lui-même, un plat, on va dire. Mmh. Donc là où une boulangerie moyenne en France vend 250, 300, 400 baguettes, bah, à titre de comparaison, nous, hier, donc on était dimanche, on a passé 700 clients à Main Croissant, on a vendu 12 baguettes.
D'accord.
Pas parce qu'elle n'est pas bonne, simplement parce qu'on n'est pas du tout dans le cœur du marché.
Et donc, eux, quand ils le mangent, là, ils mangent comment la baguette
Bah, ceux qui les mangent, c'est essentiellement des expatriés.
Ah, d'accord, il y a vraiment de marché pour.
Très peu de Taïwanais achètent des baguettes.
Mmh. D'accord. Et donc, tu nous parlais de boulangerie taïwanaise, japonaise. Mmh. Donc, les Taïwanaises, c'est les boulangeries locales, un peu la même chose qu'il y a en Chine. Où il y a une, comment le décrire, c'est plus mélangé sucré-salé.
Voilà,
il y a
exactement.
Les classiques, la tarte à l'œuf.
Ouais, et puis c'est surtout en termes de texture de pain.
Ouais.
Nous, on va chercher à faire de la croûte. En fait, c'est ça le métier de boulanger. Via la fermentation, faire de la croûte et faire des pains qui se conservent longtemps.
Ouais.
Taïwanais, c'est l'inverse. Très mou, le plus mou possible.
Mm-hmm. D'accord. Et taïwanais et japonais, est-ce que c'est similaire? C'est un peu plus haut de gamme, en tout cas, de ce que je vois à Taïwan, les japonaises?
Oui, on peut résumer ça comme ça. C'est un peu plus haut de gamme.
D'accord. Ouais. OK. Et c'est eux qui occupent le gros du marché. Clairement, 90% du marché, c'est eux. Et l'étranger comme toi...
Bah, c'est pas compliqué. On doit être deux Français à Taïwan, à être vraiment installés en fonds propres, à avoir des boulangeries.
D'accord. Donc, en plus des chaînes, tu as quand même Eric Kaiser et Paul qui sont présents, c'est ça?
En plus des chaînes. Alors, Eric Kaiser, ça reste une boulangerie. Paul, ils sont plus passés sur un côté restauration quand même.
Ouais.
Salon de thé, restauration.
Tout à fait,
donc, il y a un coin où ils vendent du pain. Mais bon, voilà, on est loin du concept de la boulangerie de quartier en France.
Mm-hmm.
Et sinon, il y a aussi Joël Robuchon qui a son salon de thé où ils vendent un petit peu de pain. Voilà. Et après, il y a beaucoup de Taïwanais qui mixent les deux. Franco-japonais ou franco-taïwanais.
Mmh, d'accord. Gontran Charrier, ça,
oui, c'est aussi Gontran Charrier.
C'est aussi une chaîne internationale, ça, maintenant, d'accord.
Il y a aussi, j'ai oublié Gontran Charrier.
Ça s'est développé il n'y a pas si longtemps
Gontran Charrier, ça doit faire peut-être 7 ans qu'ils sont ici.
Ah, d'accord, bah, je l'ai connu récemment, c'est toi.
Et si, il y a quand même, il doit avoir 4 magasins.
D'accord.
4 magasins, oui. Mmh. Donc là, c'est une franchise. Hein. Donc,
donc toi, tu les dis, enfin, est-ce que vous êtes concurrent quelque part ou est-ce que votre clientèle, c'est plus local, les gens qui passent devant le magasin
Gontran Charrier et moi, oui, on peut dire qu'on est concurrent. Ouais.
D'accord.
On est sur le même créneau, exactement. Ouais.
Parce qu'après, bon, on est rentré directement dans l'épisode sans vraiment introduire, mais ton business, donc tu as aussi une boutique online.
Eh bien, on a un flagship qui est dans une rue à Taïwan, donc, on va dire un emplacement classique, où j'ai 150 mètres carrés. Donc, j'ai mon magasin et j'ai ce qu'on va appeler ma cuisine centrale. Donc, à partir de là, on a développé des corners dans les shopping malls. Donc, pour revenir au début, ce qu'on a fait, c'est que je voulais frapper assez fort sur le marché en arrivant. Donc, on est passé de 0 à 50 salariés en 10 mois d'activité et de rien à 4 magasins en 10 mois.
Mmh.
Donc, c'était le plan de départ. De se développer très très vite.
C'était un plan assumé. Ouais. Quoi. Avant de te lancer, tu t'es dit on va faire comme ça. Et tu l'as fait.
Oui. Alors, pour la petite anecdote, j'ai ouvert le My Croissant mi-mai en 2019 à 8h du matin. À 10h30, j'avais une première demande pour aller dans un shopping mall.
D'accord.
Donc on était un petit peu surveillés quand même.
Mm-hmm.
Et très très vite, on a commencé par ouvrir un premier pop-up au bout d'un mois. Et puis on a fait plusieurs pop-up. Et puis voilà, au bout de 10 mois d'activité, on avait donc le flagship et 3 corners.
Mmh. Et donc ce plan, pourquoi un plan aussi ambitieux dès le début? Est-ce que les choses sont passées comme prévu? Est-ce que tu le regrettes? Est-ce que c'était bien?
Non, c'était l'intérêt de faire une cuisine assez grande dès le départ. C'était
d'accord.
De se développer.
Il y a une idée de scale ou juste une petite boutique toute seule, tu savais que ce ne serait pas suffisant, quoi.
Ça aurait été suffisant, mais d'une, j'étais ambitieux. De deux, je croyais vraiment au concept. Et puis je pense que je n'ai pas eu tort. Alors, les débuts ont été très, très compliqués. Parce que pour faire ça, moi je suis en fonds propres, il n'y a pas d'investisseur derrière moi. Mmh. Il faut du cash, du cash flow, mmh. La trésorerie que j'avais pas. Donc on a été en flux tendu, on va appeler ça très 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 tendu pendant 2 ans parce que j'étais endetté de partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand tu vas dans les shopping malls, l'argent que tu vas gagner au 1er octobre, ils vont te le reverser au 15 novembre.
Mmh. D'accord,
donc au démarrage, pour amorcer la pompe. Sachant que moi j'ai fait tous mes corners en même temps quasiment, ça a été compliqué.
C'est ça, parce qu'on voit bien, tu passes par leur machine de caisse, par le système de carte bleue,
cash. Tout est entièrement contrôlé.
Mmh, d'accord. Ouais. Ouais.
Tu, y a pas de remise de caisse à la banque le soir.
Mmh. Donc, plus j'imagine, faut acheter des machines quand on s'installe, ça coûte un peu cher, l'installation de la cuisine, la location, le staff, enfin, l'air de rien, c'est un.
Mike Croissant, ça m'a coûté au démarrage 300 000 euros d'investissement.
Mmh. D'accord.
Donc, et ce qu'il faut savoir, qu'aucune banque nous prêtait d'argent au démarrage, parce que c'était une création et qu'on n'a pas racheté un fonds.
Et le côté création d'entreprise à Taïwan, ça s'est bien passé, ça?
La chance que j'ai, moi, c'est que je suis associé avec ma femme, qui est taïwanaise. Donc, clairement, on s'est séparé les tâches. Mmh. Elle s'occupe de tout ce qui est service, donc les filles à la vente, plus administratif. Et on va dire que moi, vraiment, je suis le poumon, le réacteur de la cuisine, qui donne l'élan.
D'accord. Toi, tu mets encore les mains à la pâte
Oui. Alors, depuis l'ouverture, j'ai structuré. On a une directrice générale, j'ai un chef, j'ai 3 sous-chefs. Mais clairement, j'y suis encore 90% de mon temps.
Et qu'est-ce qui se passe? Faut que tu es obligé d'être là, tu le fais par plaisir, il faut créer des nouveaux produits. C'est quoi les enjeux?
Je pourrais y être moins, ça c'est clair. C'est un métier passion. C'est ma vie aussi d'être avec eux le matin. Comme tu viens de le dire, il faut amener beaucoup de nouveautés sur la gamme. Donc, il faut tout perpétuellement être en recherche de nouveaux produits. Donc, l'idée que j'avais, c'était de continuer à développer. On devait continuer à développer. Le Covid est arrivé, tout s'est arrêté. Et donc là, maintenant, la vraie question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce qu'on continue à développer à Taïwan? Donc, développer à Taïwan, ça veut dire se réendetter et puis passer peut-être de 3 magasins à 10. L'interrogation qu'on a, c'est que demain, si on monte une vraie cuisine centrale et qu'on ouvre 5 ou 6 magasins, qui on va mettre à travailler dedans?
Mmh. Mmh. Quoi, c'est difficile à staffer, tu veux dire?
Très compliqué, très très compliqué.
De trouver les gens, de les garder justement.
Je suis perpétuellement avec des annonces en train de chercher soit des filles à la vente, soit des boulangers. Juste quelqu'un qui se présente à l'entretien, c'est déjà une petite victoire.
D'accord. Mmh. Comment tu l'expliques, quoi? C'est juste le marché du travail à Taïwan ou c'est le domaine?
On va dire qu'il y a un environnement qui fait que les gens ne sont pas poussés à travailler. Mmh. Et puis tout ce secteur du, on va appeler ça le F&B, je suis pas un cas isolé, j'ai plein de copains qui ont des restaurants ou qui travaillent dans les hôtels, on est tous confrontés à la même chose.
D'accord. Donc, vivement l'automatisation, quoi.
Non, mais il faut aussi réfléchir à peut-être une autre manière de vendre. Mmh. Peut-être. Il y a des distributeurs de baguettes en France. On ne fera pas ça à Taïwan, ils ne mangent pas de baguettes, mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à un distributeur de croissants ou des choses comme ça?
Taïwan est un peu en retard là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué, les 7-Eleven commencent à faire des tests de machines automatiques.
C'est marrant que tu parles de...
Les supermarchés les ont mis en place, commencent aussi, mais bon, ça reste...
Si, Din Tai Fung l'a aussi mis en place pour passer les commandes.
Ouais.
Voilà, on y arrive. À Zara aussi, tu payes plus en caisse, tu payes directement des machines. Mais je pense qu'on a un vrai tournant dans cette industrie-là. Et, et que les, on va dire, les gens comme moi qui se lancent, qui font des créations, on va être de moins en moins, parce que d'une, il y a moins en moins de personnes qui veulent faire ça. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment dur et compliqué.
Mm-hmm. Non, j'entends bien. Plus le risque. Donc, tu as parlé du Covid. L'épisode de la rôtisserie, justement, il s'était pris le Covid de plein de faces aussi. Je crois qu'il a survécu au Covid, mais malheureusement, l'entreprise, il avait quand même 3 ou 4 points de vente à Hong Kong. Hein, ça marchait bien. Je crois qu'il a fermé, finalement, après pas mal d'années d'existence.
Ouais.
Mais donc, raconte-nous un peu cet épisode du Covid.
Plus globalement, le Covid, toutes les entreprises qui n'étaient pas trop en bonne santé, je pense qu'elles sont mortes. Mm-hmm. Voilà, c'était trop compliqué.
C'était un crash test ou... Un stress test plutôt.
Ouais. Nous, le Covid nous a réellement impacté, parce que dans les shopping malls, il y avait un cas de Covid. Le shopping mall était fermé 2 jours. Mm-hmm. Donc, très grosse baisse de chiffre d'affaires. En termes de staff, ça a été une vague de départ. Mm-hmm. On a perdu la moitié de l'équipe.
Alors, les gens avaient peur, parce que j'imagine qu'ils ne voulaient pas être exposés en boutique.
Ouais, ce qui m'a un petit peu arrangé, parce qu'on n'était pas en capacité de les payer, vu que l'activité a été divisée par 3 dans les shopping malls. Après, nous, ce qu'on a fait, on s'est servi de ça pour prendre un autre virage. Donc, on a monté un magasin en ligne. On s'est mis avec Uber Eats. Et Uber Eats, j'entends beaucoup de gens qui me disent Uber Eats, ils prennent une grosse commission. D'accord, mais si on le fait intelligemment, Uber Eats, c'est très, très, très intéressant. Ça, et pendant le Covid, ce qu'on a fait aussi sur notre compte Line, on faisait des livraisons par quartier. Et ça a cartonné, réellement cartonné.
Donc organisé par quartier
Par exemple, là, on est dans le quartier de Sogo. Sur notre Facebook et sur notre compte Line, on disait, le 15 janvier, si vous commandez pour tant, on vous livre gratuitement. Mmh. Et on arrivait à remplir le camion comme ça quasiment tous les jours.
D'accord.
Et donc ça nous a réellement permis de passer le Covid.
Ok, donc il a fallu créer des nouveaux débouchés, quoi. Et donc le online, donc t'as un vrai un site e-commerce.
Voilà,
c'est ce qui est un peu surprenant, parce que intuitivement moi j'irais pas là-dessus, mais ça marche, quoi. Il y a des clients qui commandent en ligne.
Ouais, on a le même point de vue. Moi, quand les filles au bureau m'ont dit on va faire ça, fallait faire quelque chose de toute façon pour le Covid, puisqu'on va le faire. Alors, j'y croyais pas une seconde. Mmh. Je dis, qui va commander un croissant? Et en fait, ça cartonne. Moi, je suis pas d'une génération où trop au téléphone, où on commande en ligne, tout ça. Mmh. Mais en fait, ici, beaucoup. Enfin,
et c'est quoi? C'est 2 croissants ou c'est plutôt 10 items? C'est quoi les commandes?
Non.
C'est que sur Taipei?
Non, on livre tout Taïwan. Mmh. Donc, on a une société, on sous-traite, on a une société de livraison. Qui envoie la marchandise dans le sud de l'île. Mmh. Mais les gens commandent là où on a un ticket moyen qui va être à 200-250 NT au magasin, c'est quasiment le double en ligne. Parce que du coup, les gens achètent beaucoup plus. Parce qu'ils ne vont pas commander tous les jours.
Oui, bien sûr. Mmh. Hein, ouais. On parlait donc des boulangeries locales. Rebuchon aussi, toi tu es entouré en face de toi, là, je parle du le shop qui est à Zhongxi Fuxing à côté de chez moi, donc je connais bien. Je suis client, comme je le disais. Donc en face, tu as une boulangerie locale.
Ouais,
un peu plus loin, il y a Joël Rebuchon qui a un petit point de vente.
Là, je peux te raconter une petite histoire sur la boulangerie locale qui est en face. Alors quand je suis arrivé à Sogo, il m'avait mis juste en face. Et ça a cartonné dès le premier jour. Sauf que ça a trop bien marché. Et que le boulanger en face, qui est là depuis 20 ou 25 ans, a été trouvé la direction de Sogo en disant le français nous prend trop de chiffre d'affaires. Donc vous voyez la diagonale, vous le mettez au bout du shopping mall.
D'accord.
Je me suis retrouvé dans un emplacement. Mais alors même les gens qui savaient que j'étais à Sogo ne me trouvaient pas.
D'accord.
Donc on a fait le dos rond, on n'a rien dit. Pendant un an, le magasin a tourné plus qu'au ralenti. Et puis à un moment donné, on a été les voir. On a dit, nous, on va pas rester parce que vous nous avez mis, c'est trop compliqué. Et je pense qu'ils croyaient en la marque et du coup, ils nous ont remis au même endroit. Et voilà, ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant qu'on est.
Donc à l'entrée, quoi, qui est un peu le.
À l'entrée, ouais. Mais qui est un placement quasiment premium, ouais.
Ouais, d'accord. Et moi, je me pose toujours la question parce que je trouve que le local, déjà, j'ai l'impression que les matières premières, une grosse différence, c'est peut-être même la matière grasse. Ils n'utilisent pas le même beurre par exemple.
Exactement. Ouais.
Dès qu'on est dans une boulangerie taïwanaise, il y a cette espèce d'odeur un peu âcre, pas très agréable, qui est.
Parce que c'est pas du beurre.
C'est une espèce de margarine.
C'est une margarine un peu locale. Et
pourtant, c'est quand même pas donné, quoi. Je trouve que ils margent comme des cochons, j'allais dire. ce côté un peu plus cher, mais la différence n'est pas non plus démente, alors que j'ai l'impression que les ingrédients sont plus qualitatifs.
Ah bah, si tu prends un compte d'exploitation d'une boulangerie taïwanaise et le mien, ce qui est food cost, voilà, je pense que tu le divises par deux. Hein.
Et comme ils font du volume, il y en a qui doivent, ça va être un super business quoi, pour certaines, celles qui marchent bien.
Ouais. Bah, la boulangerie qui est en face de moi à Sogo, oui, c'est un super business. Hein.
Ah ouais, non, ils tournent bien. Quoi. Ouais. Ouais. Et quand on regarde, ouais, même, tu vois, Robuchon au bout de l'allée, là, qui n'est pas aussi bien placé que toi. Et donc, je sais pas, je prends un exemple concret. Ils ont une tarte aux pommes à 70 NT, qui est peut-être un peu moins chère que chez toi, j'ai l'impression. Toi, t'es plus quoi, peut-être à 80, on va dire. Ou c'est 30 NT, c'est 1 euro pour donner un ordre de grandeur. Mais à la fois, je trouve les prix déconnants à Taïwan, souvent. Je trouve que cette tarte aux pommes de chez Robuchon, tu la mettrais derrière une belle vitrine ailleurs, à 150 NT, les gens ne seraient pas non plus choqués. Quoi.
Ouais, ouais.
Donc, on est sur un marché où on peut avoir des produits, c'est un peu de la cochonnerie, super cher.
Ouais.
Il y a plein, plutôt dans les cafés, par exemple, ils offrent tous des gâteaux qui m'ont l'air d'être industriels, dégueulasses, et c'est vite 200 NT, 6 euros le gâteau.
Bah, ils
donc, tout ça pour dire que le marché est un peu chaotique. Quoi. Il y a différents niveaux de prix, de qualité, et ce n'est pas forcément logique.
Ils font ça parce que dans les coffee shops, c'est du retail, et faut qu'ils gagnent leur vie. Donc,
c'est vrai, peut-être une méconnaissance aussi des clients. Moi, j'ai l'impression que les Taïwanais ne connaissent pas tous la vraie pâtisserie ou même la nourriture étrangère. Quand tu vois les restaurants étrangers ici, parfois, pour 50 euros, parfois, tu as des trucs qui ne sont pas terribles. Ouais. Alors qu'en France, pour 50 euros, on commence quand même à bien manger. Quoi.
50 euros, c'est un étoilé Michelin. Hein. C'est
une étoilée Michelin. Oui, je dis ça au même moins. Mais moi,
non.
Parce que j'ai mangé à ce prix-là dans le quartier il n'y a pas longtemps.
Non, ça, il y a des vraies variations de prix. Après, moi, je dis, tu fais de la qualité, il ne faut pas non plus la brader. Quoi. Dire, tu t'achètes de la belle matière première. Moi, j'utilise du beurre d'Isigny sur mer, de la farine d'Auvergne. Voilà, il y a un vrai savoir-faire. Il ne s'agit pas de voler les gens, mais il y a quand même un contexte économique à respecter. Et si MyCroissant veut continuer à exister, il y a cette notion-là à prendre en compte.
Hein. Mmh, d'accord. Et donc, c'est un prix qui est... c'est quoi? C'est le prix du marché ou c'est toi qui... C'est en tâtonnant,
Non, clairement, moi, je suis en average, quoi. Je suis dans le prix du marché. Hein. Tu prends le croissant, mon croissant, il est à 60 NT. Tu fais 10 boulangeries qui font des croissants français, on est dans le vrai. Hein. Mm-hmm. On n'est pas peu cher, on n'est pas non plus trop cher.
Mm-hmm. D'accord. Et donc, après, je reviens donc en online. Tu es peut-être lancé dans le online. Vas-y, hein, si tu veux boire une gorgée d'eau. Chaque fois, je t'assème de questions et tu n'as pas le temps de saisir ton café. Est-ce que la stratégie online, j'ai vu qu'il y avait donc pas mal de reviews sur Google Maps. Alors j'affiche à haute voix, est-ce que c'est lié à ton online ou plutôt c'est plutôt du offline en fait.
Ouais.
Mais bon, on va dire toute cette stratégie de marketing pour faire la promotion. Est-ce que je sais pas si tu es présent sur les réseaux sociaux, j'ai pas été regardé.
Si, si,
est-ce que tu gères tout ça quoi?
Clairement, c'est pas moi qui le gère. Mm-hmm. Du tout. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors, je pense que c'est un défaut que j'ai.
Quand j'ai vu ta réponse, on sent le patron qui a réussi à. À se débarrasser des tâches, ça marche bien, il ne veut pas savoir ce qui se passe.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai essayé de structurer MyCroissant et d'avoir des éléments forts là où ils sont bons.
Mm-hmm.
Moi, les réseaux sociaux, clairement, ce n'est pas mon truc, j'aime pas ça, mais voilà, il faut être présent. Donc, j'ai quelqu'un au bureau qui ne fait pas que ça toute la journée, mais qui s'en occupe, clairement qui s'en occupe. Donc, c'est pas démentiel ce qu'on a, mais on doit avoir 25 000 followers sur Facebook et 6 ou 7 000 sur Instagram.
Mm-hmm.
Ce n'est pas non plus dingue.
Moi, pour ce type de business, c'est quand même pas mal, non, j'ai l'impression.
Pour une boulangerie à Taïwan, française, je pense que c'est correct. Alors, on pourrait être meilleur, ça c'est clair. C'est un vrai sujet qu'on a des fois au bureau l'après-midi, parce que je trouve qu'on ne poste pas assez souvent. Alors après,
avec un ROI qui est clair, est-ce que tu vois le business que ça te rapporte d'être plus ou moins bon sur Facebook ou sur Instagram?
Alors, je pense que maintenant c'est Instagram plus que Facebook.
D'accord.
Et
que Facebook était historiquement à Taïwan, c'est quand même très très fort.
Oui, exactement. Okay. Mais je pense que Instagram a pris le relais.
Mm-hmm.
Et je pense que quand tu arrives à 100 000 followers, ça a un vrai impact sur tes ventes.
D'accord. Tu travailles avec des KOL parfois?
Écoute, on l'a fait il y a quelques années, pas directement sur de la vente pour MyCroissant, mais sur des projets à côté que j'avais de formation en ligne.
Mmh.
Ça dépend vraiment de qui tu travailles avec. Il y a de tout. Il y a de tout. Y a vraiment moi, il y a beaucoup de gens qui achètent des followers. Et finalement, ils ont sur le papier une communauté qui est grande, mais en fait, avec très peu de pouvoir. Donc, c'est un peu à double tranchant, ça. Moi, je dis être riche sur Instagram, c'est comme être riche au Monopoly. Hein.
C'est pour ça que je demandais le ROI, comment le mesurer. C'est toujours
Non, c'est compliqué. Ouais. Non, après, quelque chose qui est vraiment significatif pour moi, je pense, c'est les Google Reviews.
Qui sont aussi trafiqués, j'allais te le dire.
Ouais.
J'ai vu ça récemment.
Alors, nous, on ne trafique pas.
Il se passe des choses pas nettes. Hein.
Ouais. Oui, je pense que des fois, oui. Nous, on ne trafique pas, on laisse tout, même quand on se fait allumer. Actuellement, on a.
D'ailleurs, il y a des Français qui sont pas sympas avec toi. Là. Il y en a...
Tu l'as vu
le, comment... Ah, bah, il est le Julien quelque chose. Là, il est tout en haut, moi, quand j'ai ouvert. Parce que, en fait, le fait d'être Français, je pense, tu vois, il met les Français d'abord.
Ouais, peut-être. Non, j'en ai eu un, là. Il y a...
Le mec, il est un peu dur. Hein.
J'en ai eu un il y a un mois, là. Très bizarre. Très, très bizarre. Donc, il m'a expliqué que le croissant que je faisais n'avait ni la texture, ni l'aspect, ni la couleur d'un croissant français. qu'il était français, il savait de quoi il parlait. Ça, il m'a aussi dit que je
travaillais... Heureusement que tu l'as pas croisé en vrai, lui, parce qu'il a passé un mauvais quart d'heure.
Je dirais, on lui a fait une réponse très sympathique. il m'a aussi expliqué que je travaillais pas dans ma boulangerie. Ce qui est assez bizarre, parce que j'y suis quasiment tous les matins à 3h.
Ça devient un peu agressif, là, quand même. Ouais. Il cherche un peu des noises. Là.
Et que si je me lançais en France, je tiendrais pas un mois. Donc... Et je dis ça parce que à une époque, c'était exceptionnel chez moi. Je regardais 4 à 5 fois par jour les Google Reviews. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut prendre du recul. Et certes, c'est significatif, mais il ne faut pas tout prendre.
Ah, non, bah je surtout les commentaires comme ce Julien. Ouais. Non, et c'est pas pour finir sur le sujet. Ouais, non, t'es aussi pas chez Louis, qui est un gros YouTuber Taïwan, un Français, avec 700 000 vues. Donc, t'es très humble sur tes performances sur les réseaux, mais une vidéo à 700 000 vues, c'est quand même pas mal du tout.
Ça, c'est surtout Louis. C'est Louis qui était venu un jour à la boutique un dimanche après-midi. Il a acheté de la viennoiserie, du pain. On avait discuté 5 minutes. Et le lendemain, il m'a passé un coup de téléphone et il m'a dit, il faisait à cette époque-là une espèce de série sur les Français à Taïwan. Et il avait déjà interviewé quelques Français. Il m'a dit, j'aimerais bien faire une vidéo avec toi. Et oui, on a fait une vidéo ensemble, là, une demi-journée, qui avait fait, il me semble, 700 000 vues. Ouais. Et d'ailleurs, suite à ça, pour revenir au KL, une fois que la vidéo est sortie, ça a juste été la folie à main croissant. J'ai été rendu à limiter le nombre de croissants par personne.
D'accord.
Parce que le premier jour, donc on avait la queue sur 200 mètres. Premier client, bonjour, je voudrais 52 croissants. D'accord. Deuxième client, bonjour, je voudrais 38. Et voilà, et les quatre premiers comme ça. Et
il les revendait. C'est quoi
plus de croissants.
Il est retourné dans la queue les vendre.
plus de croissants au bout de 3 minutes. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, on va faire 5 croissants au maximum par personne. Et c'est dommage que le Covid est arrivé, je crois, 2 ou 3 mois après. Donc, on est resté comme ça 2 ou 3 mois. Covid, terminé.
Ah, ça a cassé la dynamique.
Ouais, complètement.
Ouais, avec cette vraie culture de faire la queue, etc. Ouais, à Taïwan. Ouais. Et justement, j'avais entendu parler d'une opération de relations de presse. Je ne sais plus quelle marque c'était, qui se lançait à Taïwan. Un boulanger, mais plutôt quelque chose d'international, je suppose. Et qui vraiment avait fait des relations de presse en mode pour faire la promotion de ses croissants.
Ah, c'est Gontran Charrier, ça.
Ah ouais, c'est lui. Et qui avait réussi à générer un petit buzz, de la queue, etc.
Ouais. Il a gardé la queue pendant 6 mois, je pense. Et lui, il vendait ses croissants, ce qu'il avait mis en place. Il sortait des croissants chauds toutes les heures. Donc, il fallait attendre 16h, 17h, 18h. Et ça partait. Et puis, une fois que c'était fini, c'était fini.
Faire la queue pour un croissant. Il y a des fois, on ne comprend pas. On combat tout.
En plus, je pense qu'ils ne font pas la queue pour faire un croissant. Mais parce que tout le monde fait la queue, il faut faire la queue. Je pense que c'est plus ça l'explication.
Et justement, enfin, donc on parle de culture asiatique. Est-ce que tu as eu des chocs culturels un peu
Oui, beaucoup. Le premier que j'ai eu, c'est qu'au démarrage, ils disent pas non. Tu expliques quelque chose.
Plutôt avec ton staff, donc là.
Oui, avec le staff. Ouais. Tu expliques quelque chose, ils te disent oui. Et finalement, il a pas compris. Il a pas compris, c'est pas grave. Mais tu as quand même dit oui. Donc toi, tu pars. Et en fait, il a fait à l'envers. Et donc, les premières fois, moi, ça me rendait dingue. Et puis, au bout de quelques semaines, j'ai compris qu'il ne disait pas non. Donc, alors, à ce moment-là, on a expliqué. On a dit, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. On va prendre quelqu'un pour traduire ou on va te réexpliquer. Mais surtout, si tu n'as pas compris, il faut dire non.
Et le côté linguistique
Le côté linguistique, c'est assez particulier parce que moi, quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas anglais.
Tu m'as dit, tu n'as jamais pris l'avion, c'est ça ?
J'ai jamais pris l'avion non plus. Donc c'était un peu l'aventure.
Tu mais pars quand même à Taïwan, à 10 000 km de la France, alors que tu n'as jamais pris l'avion et que tu ne parles pas anglais. Quoi, faut...
Ouais, alors quand je raconte ça, tout le monde me dit...
Bon, tu connaissais ton métier, mais quand même, faut oser. Quoi.
Voilà, tout le monde dit ça, faut oser.
Tu avais un peu le doute ou toi tu...
Ben, en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je ne réagis pas comme ça face aux situations. En fait, moi, quand c'est quelque chose qui me challenge ou par exemple si j'ai des problèmes, ma réaction, ça va être de mettre les deux pieds dedans et puis de faire face. Alors des fois, c'est dur, des fois, c'est compliqué, des fois, on n'y arrive pas. Mais j'essaye au maximum de ne pas subir les choses. Donc, quand je suis arrivé ici, j'essayais de ne pas subir. Alors... des fois, quelque chose qui aurait dû prendre 2 minutes, ça prenait quasiment la journée parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Mais voilà, et puis petit à petit, j'ai assez parlé vite anglais quand même. Au bout de 3-4 mois, je pouvais tenir une conversation. Et puis après, à partir de là, on s'organise. Hein.
Et l'anglais est suffisant, c'est pas la peine de parler chinois
Bah alors au démarrage, j'ai appris l'anglais. Et puis après, voilà, bon, je vais être honnête avec toi, je parle pas couramment le mandarin. Mm-hmm. Mais je peux me débrouiller en cuisine, ça suffit quoi.
D'accord. Et donc, ouais, donc on fait la chose de manière un peu décousue. Je me souviens que tu m'avais dit aussi que tu avais une partie B2B. Donc, on a dit 3 points de vente, 4 même avant le Covid qui t'en enlevait un.
Ouais.
L'activité online, on a couvert. Et aussi une activité B2B, c'est ça ?
Oui. Alors, j'ai activité B2B et aussi à côté, maintenant, depuis 3 ans, j'ai une activité de conseil. Donc, on a l'entreprise MyCroissant et à côté, on a Guillaume Elie Conseil. Donc, Elie, c'est le nom de ma femme. Mais pour revenir à MyCroissant... il y a quelque chose que j'ai remarqué, si tu te focuses simplement sur le B2C et tu attends que les gens rentrent dans ta boulangerie pour acheter ton pain et tes croissants, c'est un peu compliqué. Parce que s'il se met à pleuvoir ou il y a un typhon, ou, voilà, tout de suite, ça casse les ventes quand tu es dans la rue. Pareil, le shopping mall, tu dépends vraiment du trafic qu'il y a dans un shopping mall. Donc moi, je me suis toujours dit, il faut absolument qu'on développe une activité B2B à côté. Donc ça veut dire fournir les coffee shops, les restaurants, les hôtels. Et donc à partir de là, vu mon passé que j'avais chez Lalos quand j'étais à Taïwan, avant d'ouvrir MyCroissant, on avait déjà rentré 6 ou 7 clients B2B. Ce qui nous permettait voilà, de générer un petit revenu déjà à côté sans savoir ce qu'on allait faire à la boutique.
D'accord.
Donc voilà, et donc ça, on s'est vraiment engouffré là-dedans. Et du coup, maintenant, on a à peu près entre 30 et 35 clients B2B.
Donc des hôtels, restaurants, ce genre de choses hein.
Alors, hôtels, on est en train d'y arriver là. On est en train d'y arriver, mais sinon, beaucoup de restaurants et beaucoup de coffee shops.
D'accord, et donc ça, c'est des clients avec. Enfin, ça te fait des volumes stables, assurés
Ça représente quasiment 15% de mon chiffre d'affaires.
Et t'aimerais le faire grossir, quoi, idéalement.
J'aimerais bien le doubler, une
direction stratégique.
Ouais, j'aimerais bien le doubler.
D'accord. Et les enjeux là-dessus, c'est quoi ? Il y a beaucoup de concurrence ou faut qu'ils...
Eh bien, finalement, assez peu.
Qu'ils aiment tes produits, qu'ils aient besoin de ces produits.
Pour
un hôtel, bon, on comprend des petits déjeuners, mais les restaurants, c'est quoi ? Du dessert, t'as aussi
non,
des choses à offrir.
Non, restaurant, on fait du pain.
Ah, plus sur le côté
pain. Par exemple, je travaille avec Jean-François Piège. Qui est multi-étoilé en France, qui a un restaurant à Bella Vita. Et donc voilà, pour lui, on lui fait le pain. Après, je travaille avec beaucoup de restaurants style des bistrots français. Donc par exemple, Wild Donkey, qui est un Taïwanais, mais qui a plusieurs restaurants, qui fait un peu du français. Donc pour le coup, il achète
Wild
vraiment
Donkey.
Du...
Ok, je ne connaissais pas, je note.
J'ai été aussi partenaire avec André Chang. Donc, l'enfant du pays, la star, quoi, qui est vraiment quand même connu, très connu à l'international. Donc, lui, quand il a fait son menu français, et donc on a fait un bread pairing. Et donc, voilà, pendant 6 mois, c'était des volumes de dingue parce qu'il achetait quasiment 200 pièces de pain par jour.
Et sur les produits, donc on a commencé à aborder le sujet, mais dans quelle mesure est-ce que tu as dû customiser ton offre au goût local
Alors. Clairement, l'idée, c'était de garder ce savoir-faire français, mais de l'adapter au goût local. Donc, ça veut dire que si tu viens à MyCroissant, tu vas trouver les références françaises, croissant, chaussons, pommes. Mais à côté, tu vas trouver donc, cette pâte à croissant qui a un bon beurre français, de la farine française, mais adaptée au goût local. Donc ça veut dire que, par exemple, on a fait un croissant avec un insert de thon au maïs et à la mayonnaise.
Ah, quand même, ouais.
Voilà.
Mais qui c'est est... pas juste baisser le niveau de sucre, là, t'es sur une grosse adaptation, on va dire.
Mais voilà, qui est super joli, super bon, très bien équilibré, mais que jamais tu vas trouver en France. Jamais. Mm-hmm. Donc voilà, moi je dis souvent, si tu veux faire de la boulangerie française, faut rester en France. Mm. Tu vois, il ne s'agit pas de venir ici et de faire que de la baguette et que du croissant, parce que je pense que tu ne vas pas exister longtemps. Forcément, tu es obligé de t'adapter, ça c'est clair.
Mm-hmm. Et tu es sûr, donc à la fois du salé, du sucré, toi tu es quand même plus de, pas mal plus de sucré, et quelques références salées, c'est ça?
Oui, bah c'est un des axes de développement qu'on a, hein, c'est vraiment de développer cette gamme salée dans les mois qui arrivent. Mais oui, on est essentiellement, je pense, à 70% sucré, 30% salé.
D'accord. Et le fait qu'on dise qu'il fallait moins sucré ici, c'est vrai qu'en France ou
C'est vrai. Tu vois, par exemple, les macarons, c'est pas un business qui marche à Taïwan. Parce que trop sucré.
Ouais, pourtant, c'est connu, me semblait, les macarons ici. Mais ils ont été adaptés dans ce cas-là.
C'est connu, mais tu prends par exemple la durée qui s'est installée ici. La durée, c'est une grande marque. Ça n'a pas duré.
Ça va pas durer. Sans faire de blagues, d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Mm-hmm. C'est vrai. Et toi, tu mets ça sur l'histoire du sucre, quoi. Donc c'est quelque chose qui est trop sucré, le macaron.
Si ça n'a pas marché, c'est que ça ne plaisait pas aux Taïwanais. Donc économiquement, ça ne marche pas. Donc voilà, tu ne restes pas.
D'accord. Mm-hmm. Et après, donc, tu testes les nouveaux produits, comment tu les...
Oui, exactement. Ouais. Mais tu le sais assez vite. Hein. Tu lances une nouveauté, tu fais un peu de pub sur Facebook, un peu de promotion au magasin, tu le sais très très vite. Au bout de 3 jours, tu sais si c'est un truc qui va marcher ou, voilà, ou s'il faut arrêter.
Ok, donc ça c'est pratique d'avoir un feedback assez rapide. Et tes meilleures ventes, c'est quoi c'est...
Croissant.
D'accord. Clairement. Et sur les produits un peu plus exotiques, on va dire, tu as.
Y a un truc assez bizarre, c'est la galette des rois, qui était, quand je suis arrivé, qui était quasiment inconnue. Aujourd'hui, les galettes arrivent. On stresse parce que est-ce qu'on va réussir à produire assez?
D'accord.
Une belle boulangerie en France, c'est 800 000 galettes, tu vois, pour la saison, pour l'épiphanie. Nous, l'année dernière, c'est 6 500 galettes, c'est-à-dire qu'au mois de décembre,
sur l'ensemble de tes points de vente, quand même. Mais t'es encore au double de ce qu'ils font en France.
Si tu divises par 3 boutiques, on est quasiment à plus de 2000 galettes par boutique. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, quand on fait les galettes, on passe nos nuits à faire des galettes.
D'accord.
Je suis avec 2-3 gars et on passe nos nuits à faire des galettes.
Parce que toi, tu as vraiment des limites en termes de production.
En termes de production.
C'est quoi? C'est le four? C'est quoi les facteurs limitants?
Non, c'est tout. C'est qu'on ne peut plus stocker la matière première. C'est que les frigos sont pleins. C'est que le four est plein. Et arrivé la semaine de Noël, on limite le nombre de galettes par jour de commandes. Parce que si tu prends 500 commandes par jour, après il s'agit de les emballer et de ne pas se tromper quand Madame Durand arrive et qu'elle a commandé une frangipane et pas une chocolat. Donc on limite, la semaine de Noël, on limite, parce que du coup, il y a quelque chose qui est important. Je veux bien avoir du volume, mais il faut rester en maîtrise sur la qualité.
D'accord. Donc tu t'auto-limites pour, pas, pour éviter les problèmes.
Alors, s'auto-limiter à 6500 galettes sur la saison, c'est s'auto-limiter, mais c'est déjà aller chercher des beaux volumes.
Ouais, non, c'est déjà pas mal quand même. Et sur le côté développement, donc tu parlais de les questionnements que tu as sur l'avenir. Ça me fait penser à Pizza Rock. Tu vois ce que c'est, cette chaîne de pizza? Il me semble qu'à la base, c'était un étranger qui faisait ça à Kaohsiung. Je connaissais sa pizza là-bas. Et j'ai l'impression qu'il a levé des fonds, est-ce qu'une entreprise taïwanaise est rentrée chez lui, mais maintenant il est devenu omniprésent partout sur l'île. Est-ce que c'est je me pose la question, est-ce que c'est un exemple du type de développement que tu pourrais imaginer d'avoir un partenaire
Alors partenaire,
juste lever de l'argent. Enfin, c'est
partenaire, je me pose encore la question parce que si je me suis installé, c'est aussi pour être libre, libre à tous les niveaux. Donc ça, je me pose encore la question. Après, oui, se développer, c'est quelque chose dont j'ai envie. Et moi, j'aimerais bien passer de 3 magasins à 10 magasins à Taïwan. Clairement, on a la demande parce que toutes les semaines, on reçoit des demandes de shopping mall. Tu vois le shopping mall qui a ouvert à côté de Sogo, juste à côté. Les deux tours qu'on voit de chez toi là.
Ah, les tours diamants, elles s'appellent, d'accord.
Et eux nous ont demandé. Sur Zhongzhou Fuxing, il y a le grand stadium là. C'est pareil, on a une demande. On a des demandes quasiment toutes les semaines. Donc il y a la possibilité d'aller ouvrir des corners, aussi d'ouvrir dans la rue. Ma vraie question, c'est demain, est-ce qu'on va avoir la ressource pour aller chercher 50, 70, 90 employés en plus. Mmh. Voilà. Parce que maintenant, c'est compliqué. Comment on va faire pour recruter autant de monde?
Et comment font les Taïwanais? Parce que bon, les entreprises taïwanaises, ils souffrent autant que toi, tu penses? Ou c'est le fait d'être étranger qui...
Non, je pense que le fait d'être étranger, ça ne joue pas du tout. Tu prends Din Tai Fung, qui est vraiment le leader ici dans la restauration. Ils ont le même problème. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils ont mis des bornes automatiques pour commander directement et supprimer du staff, parce qu'ils ne trouvent personne. Et pourtant, ils payent très bien, il y a beaucoup d'avantages. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le salaire ne fait pas tout. Il faut vraiment instaurer des projets individuels pour garder ton staff. Ça, c'est clair.
C'est comme chez Google, quoi, maintenant, d'être dans une boulangerie. Il faut avoir son projet 20%.
Mais ouais, ça peut paraître bizarre pour une boulangerie, mais je pense que d'adapter ce qui marche dans les grands groupes à nos entreprises, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut s'inspirer de ce qui marche.
Ouais, tout à fait. Si t'as les moyens de le faire, quoi.
Parce que voilà, exactement.
Les moyens, et là, t'es un peu obligé aussi, quoi. T'es pris entre les deux, mais... Ok, c'est intéressant. Enfin, j'avoue que c'est quelque chose que j'imaginais pas, que ça pouvait être un tel facteur limitant. Quoi, mais,
Monter une cuisine centrale, on sait faire, ça va être facile. Maintenant, si je suis tout seul à travailler dedans, ça va être compliqué. Mm-hmm.
D'accord. On parlait avant, juste au moment où tu es arrivé, on parlait du côté un peu, alors je ne trouve plus le mot en français, quoi, sustainability, en tout cas du packaging en particulier. On se disait que il y avait cette culture du packaging ici qui est peut-être un peu à la japonaise, où on va avoir le sac dans le sac du sac.
Oui.
Surtout toi qui es un petit peu premium, tu peux pas, même si c'est pour une bonne cause, tu peux pas forcément te permettre d'aller en compte de ces règles.
Non, mais t'as raison, est-ce qu'on va appeler ça un problème? C'est peut-être pas un problème, mais c'est quelque chose qui me dérange, moi. Mm-hmm. Vraiment. En Europe, on parle beaucoup de protection de l'environnement. Le packaging, c'est quelque chose, voilà. Donc en France, on a beaucoup réduit le packaging, les sacs sont payants. À Taïwan, et je vois pas le début d'un commencement de quelqu'un qui s'inquiète de ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est que quand tu achètes en dessous d'un certain montant, tu vas payer ton sac. Tu vas payer ton sac. Et au démarrage, ça a été un peu compliqué parce que les clients avaient du mal à comprendre. Donc voilà, les filles à la vente, beaucoup de pédagogie, on a expliqué et voilà, maintenant c'est instauré. Et les gens qui achètent juste un croissant, ils réfléchissent à deux fois avant de prendre le sac.
Mm-hmm. Oui, il y a un peu le système inverse avec les gobelets réutilisables. Enfin, tu sais,
oui.
Prends un café depuis quelques années à Taïwan, on te fait une réduction de $5 sur ta boisson. Donc là, c'est plutôt un incentive à l'inverse.
Ouais.
Mais bon, de faire payer le sac, si c'est accepté par les clients, ça semble une bonne démarche.
C'est aussi pour les dissuader de prendre un sac juste pour un croissant. Quoi. Mm-hmm.
Parce qu'on a ça, on a tout ce qui est vente, tout ce qui est livraison, les Foodpanda, les Uber Eats, etc. C'est assez dément le nombre de packaging qu'ils ont. Ouais. Parfois des packaging premium. Quoi. Si un restaurant un peu sympa, il va te mettre dans un beau sac en papier, mais vraiment qualitatif.
Oui.
Qui va servir qu'une fois. Donc,
Je peux te donner un exemple. Tu achètes une galette à maille croissant, donc elle est dans une boîte. Mm-hmm. Tu as 4 assiettes.
Ça, c'est la culture des assiettes et des petites cuillères.
Tu as un couteau plastique et tu as un shopping bag.
Et ça, c'est standard à Taïwan.
Ça, c'est standard.
Si tu les as pas, ils te...
Mais si tu fais pas ça, tu vends pas ta galette. Voilà. Donc là où en France, il y a un failli sac à papier pour mettre la galette, ici, on a 10 fois plus de choses.
D'accord. Et donc, tu n'as pas de recette magique. Tu essayes de faire aussi les choses, mais ça...
Non, il n'y a pas de recette magique. Je pense que tant qu'il n'y aura pas vraiment une prise de conscience du gouvernement taïwanais pour faire quelque chose, ce n'est pas nous, petits entrepreneurs à notre niveau, qu'allons vraiment changer les choses.
Non, c'est déjà bien d'avoir des petites initiatives comme ça.
Oui, on fait à notre niveau des petites initiatives, mais je ne pense pas qu'on va révolutionner le marché du packaging à Taïwan.
Et tout ce qui est gâchis, donc en France, il y a des apps, c'est quoi? Il y a Too Good To Go, ce genre d'application qui se développe.
Nous tout ce qui est... on a assez peu de pertes le soir, mais ce qu'on a en pertes, on l'emballe dans des cartons, tu vois, bien propre, safety food, et derrière on donne ça à des œuvres caritatives.
D'accord. Ouais. Et donc c'est les applications qui peuvent gérer ça aussi, ça n'existe pas encore à Taïwan
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une seule entreprise qui vient chercher, tu vois, par exemple, tous les 2-3 jours et qui après redistribue.
Sur du caritatif, quoi.
Ouais, okay, sur du caritatif. Ouais,
ouais. Qui est aussi une bonne solution, quoi. Mais,
Oui, je pense que c'est bien, autant que ça part à la poubelle, donc autant que ça serve à quelqu'un.
Hein. Mm-hmm. Bon, j'espère qu'ils apprécient tes croissants.
Ouais.
Parce qu'ils sont, ils doivent pas être habitués, les types qui reçoivent ça, d'avoir de tels produits. Ok, non, on arrive à peu près au bout de l'entretien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais aborder ou on va direct sur la question finale?
Si, il y a quand même une chose, c'est peut-être une bouteille à la mer, mais ça ira mieux en le disant. Je trouve quand même qu'il y a la valeur travail qui s'est un petit peu perdue à tous les niveaux. Et que si vous êtes motivé, déterminé et travailleur, mais vraiment travailleur, hein, pas, c'est des fois j'entends des gens, ils travaillent, vraiment travailler, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Moi, je suis parti absolument de rien du tout. Je suis arrivé à Paris, j'avais 1000 euros sur un compte. Et quand je suis arrivé à Paris, je travaillais de 4h du matin jusqu'à 20h le soir. J'ai fait ça pendant un an, ce qui m'a permis d'acquérir un vrai savoir. Parce que quand tu travailles 16 heures par jour dans un métier manuel, forcément, tu commences à maîtriser un peu ton sujet. Et quand j'ai ouvert MyCroissant, j'ai raconté que j'ai développé très très vite. Mais à quel prix ? J'ai perdu 20 kilos les 45 premiers jours de l'ouverture de MyCroissant. Mm-hmm. Tu vois ? Donc voilà, il faut travailler, quoi. On n'a rien sans rien. Et je pense que c'est important de le dire parce que tous ces métiers-là, il y a eu une mise en lumière des chefs à la télé. Et parce que je vois, il y a beaucoup de Taïwanais qui pensent qu'ils vont faire 3 mois en France et puis voilà, ils vont être des chefs médiatisés. Mais ça ne se passe pas comme ça, quoi. C'est des métiers, voilà, où il faut passer par éplucher des carottes, des pommes de terre, passer le balai. Et c'est un long cheminement. Hein.
Mm-hmm, d'accord. Non, merci pour ça. Merci pour ce témoignage, quoi. Allons-y sur la question finale. Donc, c'est un peu la question signature du podcast. Je demande à mes invités, est-ce qu'ils ont une astuce à partager pour hacker l'Asie ? Donc, c'est une question assez large. Je te laisse répondre à ta sauce.
Alors moi, ma réponse, ça va être assez personnelle. Déjà, première chose, il faut pas oublier qu'on n'est pas chez nous. Mm-hmm. Et que globalement, on sera jamais chez nous. Donc, moi, je pense, de par mon expérience, que d'être avec un partenaire local, en l'occurrence, moi, c'est ma femme, c'est quasiment indispensable. J'aurais jamais pu monter MyCroissant et le mettre, entre guillemets, à ce niveau-là, tout seul. Il y a quand même la barrière de la langue, qui est vraiment le main problème. Et voilà, si vous n'avez pas quelqu'un vraiment qui va être là pour vous épauler, alors, administratif et au quotidien, je pense qu'en Asie, ça reste quand même très compliqué. Ça reste compliqué.
D'accord. Non, t'es pas la première personne à donner cette réponse.
Ce qui paraît logique.
Les entrepreneurs français. Enfin, je me souviens de Monbento, Fabien Monbento en Chine, hein, qui avait le même discours, que sa femme avait largement contribué au succès de son business. Et comme tu dis, ouais, c'est d'avoir un partenaire, parce que souvent le business se fait par partenariat, en Asie en tout cas, en Chine, à Taïwan. En Chine, on connaissait bien les joint ventures, qui étaient même souvent obligés et qui étaient compliqués. Mais d'avoir, en fait, c'est un peu de faire un partenariat un peu aussi à la chinoise, quoi. Souvent, les gens ici font du business en famille, quelque part.
Voilà, il faut pas galvauder le mot de partenaire. Quand je dis partenaire, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré en soirée et qui vous promet mon émerveille. Hein. Mm-hmm. Moi, j'aurais jamais fait ça. On me l'a proposé peut-être 10 fois avant que j'ouvre MyCroissant. Voilà, des gens qui avaient un petit peu d'argent, voilà, qui ont entendu parler que je voulais m'installer, j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé parce que je pense qu'ils sont là plus par intérêt que vraiment pour t'accompagner. Donc, moi, j'étais marié avec ma femme déjà depuis pas mal d'années. On avait la même vision des choses. Et puis, voilà, c'est vraiment un projet à deux.
Mmh. Non, c'est intéressant d'avoir aussi cette lucidité. Parce que franchement, on peut trouver des bons partenaires, mais c'est vrai qu'idéalement, si on peut tester, quand c'est des gens qu'on connaît pas, c'est vrai que c'est difficile de se lancer.
Ouais, alors faut pas se méprendre. Je dis pas qu'il y a pas de bons partenaires local.
Ouais. Tu penses souvent plutôt à du local, quoi. C'est surtout des locaux qui t'ont proposé, toi.
Oui, à 100%. Mmh. Mais par expérience et de ce qu'on me raconte, ça finit souvent moyennement, quoi.
Oui, bah avec des locaux, il y a aussi ouais, encore plus d'incompréhension interculturelle.
Ouais, exactement.
Plus de challenge, quoi. Ouais. Ok. Ok, non, bah, très, très bonne réponse. Je dis, vous êtes plusieurs à l'avoir donné, mais
ouais, bah, je pense que
c'est une recette à retenir. Ouais. C'est pratique d'à la fois avoir un partenaire dans la vie et dans le boulot. Si on arrive à gérer, je dis pas que ça va pas être facile, mais quand ça marche, c'est super.
Ça va être le mot de la fin. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que du coup, il n'y a plus de frontières entre le perso et puis le business, on va dire. Mm. Si ça vous rajoutez des enfants. il s'agit que nous, par exemple, on a mis un an à trouver notre place, elle et moi, dans l'entreprise. Mm-hmm. C'était très, 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 très conflictuel au démarrage. C'est pour ça qu'il faut être très, très soudé. Et voilà, au final, on a chacun trouvé notre place. Mais oui, moi, quand j'ai dit que j'allais m'installer avec ma femme, en France, on m'a dit c'est le meilleur moyen de divorcer.
D'accord.
Voilà. Donc au moins, voilà, les gens sont prévenus.
Ok. Bon bah merci beaucoup Guillaume.
Ah bah, je t'en prie. Merci de l'invitation.
Je t'en prie. Est-ce que tu as un moyen d'être contacté sur LinkedIn ou sur s'il y a des gens qui ont, je sais pas, des questions.
Ouais. Bah le plus facile c'est Mike Croissant sur la page Facebook de Mike Croissant.
Page Facebook de Mike Croissant. Ouais. Ok, bah je mettrai le lien et ils pourront aussi acheter un croissant directement pour ceux qui sont à Taïwan. Il y a les liens sur le e-shop, même si vous êtes n'importe où dans l'île. Bon, bah merci beaucoup. Salut.
Merci. Salut.
Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Segier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut !